Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier français Guillaume Musso.
Vous avez beau avoir écrit 15 livres, le 16e sera difficile parce que chaque livre est particulier et que finalement, si vous essayez de dupliquer une méthode, ça ne va pas forcément marcher. Et c'est à la fois très stimulant et très angoissant. Et je crois qu'il y a 50% d'excitation et 50% de terreur parce que quand vous commencez... un livre. Vous êtes excité parce que c'est la nouveauté et vous êtes tétanisé justement parce que vous êtes dans l'inconnu aussi.
Il était le tout premier invité de ce podcast à sa création en 2018 et c'est avec lui que je réalise mon premier entretien en tête-à-tête dans un monde déconfiné ou presque. Fidèle à son rythme d'un livre par an, Guillaume Musso accompagne la réouverture des librairies avec La vie est un roman, un thriller à tiroir qui ravira ses fans de la première heure comme les nouveaux. Et ils sont toujours plus nombreux puisque depuis 9 ans, cet ancien prof d'éco est l'écrivain qui vend le plus en France. Tout commence cette fois à New York, dans une immense tour de verre où la romancière Flora Conway vit avec sa fille Carrie en prenant soin de se tenir à l'écart du cirque médiatique et de l'adulation de son public. Lors d'une partie de cache-cache, l'enfant disparaît. Portes et fenêtres sont fermées, les caméras de surveillance ne témoignent d'aucune intrusion dans l'appartement. Le mystère est total et il serait cruel d'en dire plus, sinon que La vie est un roman est un Musso encore plus addictif que les précédents, grâce à sa construction imprévisible et à l'intensité des personnages qui luttent contre leurs démons personnels. C'est dans son ancien appartement parisien, reconverti en atelier d'écriture, que Guillaume m'a reçu pour parler de ce nouveau roman, nourri par son amour de la lecture et des écrivains, et de l'importance cruciale de la fiction pour nous aider à avancer dans le monde qui commence. Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Jérôme.
Ça va bien ?
Ça va très bien, merci.
Alors Guillaume, on est dans la France déconfinée, et j'ai pu venir vous voir jusqu'à votre bureau, votre appartement secondaire, un endroit où vous écrivez. Racontez un peu, alors sans forcément donner l'adresse pour les fans.
C'est mon ancien appartement en fait que j'ai transformé en bureau. C'est le premier appartement dans lequel j'ai vécu quand je suis arrivé à Paris en 2008-2009. Et je tiens à avoir un lieu séparé pour écrire. Je n'écris jamais chez moi. Chez moi, c'est vraiment l'espace réservé au couple, à la famille, aux enfants. Et donc, tous les matins, après avoir amené mon fils à l'école, je viens travailler dans cet atelier. Et on retrouve ça, vous lisez... Virginia Woolf, une chambre à soi, vous lisez Stephen King, les deux vous disent que c'est essentiel pour arriver à s'extraire de son quotidien et pour pouvoir écrire, d'avoir un endroit qui soit spécifiquement dédié au travail.
Et c'est un endroit qui est un petit peu décoré de souvenirs, et il y a notamment un tableau que les lecteurs connaissent.
Oui, c'est un grand tableau de l'artiste américain John Wan, qui est la première toile que j'ai achetée dans ma vie. Pareil, je l'ai achetée quand je suis arrivé à Paris. Je passais tous les jours devant une galerie, je voyais ce tableau me parlait. Et j'ai commencé à imaginer une histoire autour d'un tableau qui aurait comme ça une sorte de pouvoir fascinant, presque magique. J'ai finalement acheté ce tableau. L'histoire a mis une dizaine d'années avant de maturer et ça a donné effectivement le roman qui s'appelle Un appartement à Paris.
Et c'était il y a quelques années déjà, et là on fait un petit bond dans le temps avec un nouveau roman qui s'intitule La vie est un roman, et qui devait sortir il y a quelques semaines, pendant le...
Il devait sortir le 26 avril, on l'a repoussé d'un mois.
Voilà.
Guillaume, comment est-ce que vous avez vécu ces deux mois de confinement? Ça a été facile, moins facile que pour d'autres?
J'ai vécu deux mois dans mon appartement à Paris en m'occupant exclusivement de mes enfants qui ont 2 ans et 6 ans. Donc mon fils est au CP. Donc voilà, les journées, c'était je faisais la classe à la maison le matin, je faisais à manger. On a vu des tas de films, on a vu 2 tomes d'Harry Potter. Donc c'était vraiment... j'ai quitté complètement mon costume de romancier pour prendre mon costume de père de famille. C'est la première fois depuis 20 ans que je reste 2 mois sans écrire. De toute façon, ni l'envie, ni le temps, ni la disponibilité d'esprit. Et c'est toujours important que vous avez des enfants jeunes d'afficher devant eux une certaine sérénité. Et là, c'était assez compliqué parce qu'on était dans un moment que personne n'avait jamais vécu auparavant. Et donc, toute mon énergie était mobilisée pour faire en sorte que le confinement soit le moins désagréable possible pour mes enfants, en essayant de les occuper le plus possible.
Vous avez lu beaucoup alors ?
Absolument pas.
Non ?
Pas ouvert un livre.
Plus Harry Potter de...
Oui, voilà. Et donc, non, il n'y avait pas ce temps nécessaire. Les enfants, quand vous en avez 2 en bas âge, voilà, sont des sangsues sympathiques.
des petits vampires qui
vampirisent votre. Ouais. Énergie, et donc vous devez faire face, vous devez être là et vous devez il vous rattache vraiment à l'instant présent.
Alors c'est amusant parce que votre fils aîné Nathan, le roman lui est dédié.
Oui.
Sans spoiler totalement l'intrigue, vous aviez envie de lui dédier ce livre-là en particulier?
Oui, parce que ce roman est né d'une peur que j'ai toujours, qui est par rapport à voir mon fils ou ma fille disparaître. Et je me souviens très bien, la première fois où j'ai commencé à planter une graine de ce livre, c'était il y a quelques années, quand mon fils faisait du manège. J'avais toujours peur, quand le manège revenait, de le voir disparaître. Voilà, ouais. Et l'idée était restée, et après c'est devenu non plus un manège, mais une chambre. Et donc le roman commence avec une femme qui joue à cache-cache avec sa fille de 3 ans, et en jouant à cache-cache, la petite fille disparaît, et pourtant l'appartement est clos. Et donc il y a cette idée de vouloir faire une sorte de mystère de la chambre jaune, version 2.0, quoi. Version 2020. Mais la première étincelle, c'est vraiment voilà les
toute angoisse par rapport aux qu'on peut avoir avec nos enfants.
Oui. Et pour être honnête, j'avais pas prévu d'écrire ce livre maintenant. J'étais en train de travailler sur un tout autre projet qui m'a demandé 6 mois de travail, qui est un projet beaucoup plus ample, une enquête sur plusieurs époques, avec donc très 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 structuré, détaillé. Je travaillais 6 mois sur le synopsis, le squelette de l'histoire. Je me suis réveillé un matin et j'ai compris qu'en fait, j'avais plus envie d'écrire le livre, parce que j'avais l'impression que j'avais déjà vécu ce qu'il y avait à vivre par rapport au livre, et que j'avais envie d'écrire en fait sur les deux choses qui me passionnent vraiment, c'est-à-dire mes enfants, qui me relie au monde, hein, qui me relie positivement au monde, et mon travail d'auteur, et la pratique que j'ai depuis 20 ans de me lever tous les jours et de me dire, bon voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir inventer aujourd'hui. Donc ce livre, c'est un petit peu le résultat de la pratique de 20 ans de travail dans le monde de la fiction.
Alors est-ce qu'on peut dire que c'est... Que la vie est un roman est une sorte de... Moi, je le vois comme ça, comme une sorte de faux jumeau du précédent, qui s'appelait « La vie secrète des écrivains ». Alors, les titres sont similaires. Il y a un personnage d'écrivain coupé du monde. Il y a une réflexion sur le métier d'écrivain, qui est le sien et le vôtre, forcément. C'est plus qu'une coïncidence, non ?
Oui, c'est pour moi, ce livre, c'est une sorte de troisième partie d'une trilogie qui est formée par un de mes romans que j'ai écrit il y a 10 ans, qui s'appelle La fille de papier. Le précédent, La vie secrète des écrivains, et aujourd'hui, La vie est un roman. Et ces trois livres, je les ai écrits parce que, oui, j'avais envie de parler de mon métier, parce que les lecteurs, qui ont toujours été très bienveillants par rapport à moi, me posaient beaucoup ces questions-là. D'où viennent les idées ? Quelle est la part d'autobiographie dans vos histoires ? Comment on écrit concrètement ? Combien d'heures par jour ? À quel moment ? À quel endroit ? Et tout ça, finalement, cette boîte noire de l'écriture, moi-même, en tant que lecteur, j'ai toujours été fasciné par les livres de romanciers qui parlent de ça. Un livre de Philippe Roth qui s'appelle « Parlons travail », il y a un recueil d'articles d'Elena Ferrante, il y a le fameux « Écriture » de Stephen King, Zadie Smith a écrit sur ça, Anthony Burgess, et depuis 20 ans,
Murakami,
profession romancier, ouais. J'ai adoré. Oui, et donc voilà, donc depuis 20 ans, moi-même, je m'interroge, je dis toujours, mais alors, comment font les autres ? Et quand vous parlez avec des collègues, vous voyez qu'en fait, il y a des choses communes, mais il y a plein de choses qui sont assez différentes. Je ne sais pas, ça m'est arrivé d'avoir une discussion avec Douglas Kennedy dans laquelle il m'expliquait que finalement, Douglas, tous les jours, se met comme objectif d'écrire un certain nombre de signes.
Ouais.
Et il arrête au bout d'un certain nombre de signes, que ce soit 10 heures du matin ou 18 heures. Et j'étais fasciné par ça parce que c'était complètement à l'opposé de ce que je peux faire. Et voir que finalement, voilà, chaque auteur doit trouver sa propre méthode, ses propres rituels pour arriver finalement à sortir quelque chose. Et la chose un petit peu décourageante, c'est que l'expérience ne fait rien à l'affaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous écrivez depuis 20 ans que ça va être moins difficile d'écrire un nouveau livre et que finalement, je dis dans le roman, à chaque fois, vous retrouvez un petit peu pieds nus devant l'Himalaya.
Alors, c'est un livre qui est... C'est un de vos romans les plus courts,
oui.
En nombre de pages. C'est un livre qui est très fluide et qui se lit très rapidement parce qu'il est très, très addictif. Et en même temps, sa construction est pas complexe, mais surprenante, un peu déroutante, assez ingénieuse, puisqu'en fait, sans en dévoiler le contenu, il y a trois actes. Et chacun vient chambouler le précédent.
Oui.
Moi, je dis que c'est un peu comme un tour de magie, c'est un tour de passe-passe. Est-ce que, alors, sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à l'élaborer, ce tour de magie ?
Oui, c'était dès le début, il y avait cette idée de faire trois parties et que chaque partie remette en cause le statut de la partie que vous venez de lire. Donc ça, c'était effectivement ce qui était motivant. Dans cette histoire je savais pas si ça allait être possible avant de l'avoir écrit, donc c'est pas un livre sur lequel j'ai passé énormément de temps à finalement démonter les rouages. Je me suis lancé assez vite dans l'écriture parce que j'avais besoin de savoir tout simplement si le livre allait être crédible, et ça je pouvais le savoir que à partir du moment où j'allais enchaîner la partie 1 et la partie 2.
D'accord.
Et voir si finalement il y avait cette fluidité et est-ce que le lecteur acceptait cette suspension un petit peu de crédulité dont ont besoin les romanciers. Et donc voilà, donc je me suis lancé assez vite. Comme à chaque livre, il y a entre 50 et 100 pages effectivement que j'enlève à la fin parce que ça alourdit le roman, parce que ça peut faire perdre de l'émotion, de la tension. Et ça, aujourd'hui, je sais mieux le faire qu'avant. Il y a encore 10 ans, ça me coûtait de balancer 50 pages. Aujourd'hui, je connais davantage voilà, à la fois la musique du roman, le fait qu'un roman, c'est un peu comme quelque chose d'organique qui a sa cohérence propre et ce mélange entre émotion, surprise et tension narrative.
Et ce qui est très très bien, c'est que c'est pas seulement une belle mécanique de précision ou d'imprécision de fiction. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'émotions fortes. Et en fait, on y croit jusqu'au bout. Et tout, le fil conducteur, c'est moins la construction que les sentiments des personnages.
Oui, c'est toujours cette idée, voilà, de d'écrire des thrillers intimes, c'est-à-dire voilà des romans à suspense, mais dans lequel le suspense soit dans l'intériorité des personnages. Prendre des personnages qui sont voilà dans un moment de bascule de leur vie et prendre des personnages quand même qui sont suffisamment proches de vous, parce que il y a cette idée, ce que je répète depuis plusieurs années, mais auquel je crois vraiment, que un roman réussi, c'est comme une histoire d'amour réussie. Une histoire d'amour réussie, c'est vous rencontrer la bonne personne au bon moment, et un roman réussi, c'est vous avez une bonne histoire et de bons personnages, mais vous êtes dans un moment de votre vie d'homme, d'être humain, voilà, où vous allez être le mieux capable de parler de ça de façon juste et de façon intéressante et non conventionnelle.
Alors justement, il y a beaucoup de... On sent qu'il y a beaucoup de vous dans les différents personnages. Et comme le précédent, oui, on se dit, Guillaume Musso nous parle de son métier, de sa façon d'aborder l'écriture, et on se rend compte que, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais que c'est pas toujours une partie de plaisir, mais que c'est aussi, alors ça peut être positif ou négatif, mais que c'est aussi une forme d'addiction, l'écriture. Puis que quand on se lance dedans, parfois on sait pas trop où ça va nous emmener, mais on peut pas s'empêcher d'y aller. Est-ce qu'il y a une forme d'addiction?
Oui, parce que à la base, je pense que je m'interroge souvent sur qu'est-ce que c'est qui fait que depuis 20 ans, j'ai envie tous les matins de m'y remettre.
Et j'ai envie de dire aussi tous les ans.
Oui, c'est vrai. D'autres, c'est vrai, c'est vrai.
On ne prenait pas trop de temps. On se demande toujours, les romanciers, les chanteurs ou les acteurs ou les réalisateurs qui mettent plusieurs années à refaire un nouveau film, un nouveau disque, un nouveau livre, on se demande si vraiment ils aimaient ça parce qu'ils attendaient très longtemps. Vous attendez pas. Hein.
J'aime que ma vie soit toujours dans un flux créatif. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un romancier qui n'écrit pas, voilà, qu'un écrivain qui n'écrit pas. La pire tension, elle est là. Et donc, j'ai toujours besoin d'être sur des rails créatifs parce que ça équilibre ma vie d'être humain. Et à la base, dans le moteur d'écriture, oui, il y a toujours cette idée que le monde n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Et que donc, finalement, l'un des moyens les plus faciles et les plus sûrs de contrôler le monde, c'est finalement de créer votre propre monde de fiction dans lequel, finalement, vous êtes le démiurge, celui qui prend les décisions. Et effectivement, et vous avez finalement deux vies. Et moi, j'ai ma vie de père de famille, de mari. Et ensuite, voilà, j'ai cette idée d'être dans ce monde imaginaire avec des personnages que je crée, auxquels je parle, qui parfois me livrent un combat, mais en tout cas dans lequel j'ai l'impression d'avoir finalement davantage de degrés de liberté que dans ma propre vie. Dans votre vie, enfin, comme disent les stoïciens, font toujours cette partition entre il y a des choses que vous maîtrisez, les choses sur lesquelles effectivement vous n'avez pas de prise. Et une bonne partie de la philosophie stoïcienne, c'est finalement laisser couler les choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Ça ne sert à rien de vous inquiéter pour ça, de dépenser de l'énergie pour des choses finalement sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir interférer. Et donc, concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. Alors que finalement, quand vous écrivez, il n'y a plus cette partition-là, et finalement, vous êtes une sorte de réalisateur, de dieu, de maître, de chef d'orchestre. Et donc, quand vous avez pris l'habitude de passer une dizaine de jours, une dizaine d'heures, pardon, par jour dans ce monde-là. Oui, vous avez envie d'y retourner. Et oui, ça devient. Alors, c'est pas. C'est une addiction, disons, qui vous tient debout. Hein, donc, c'est pas néfaste.
Mais ça permet de fonctionner dans la vraie vie.
Oui, parce que j'ai appris finalement à avoir des horaires de travail qui sont des horaires de bureau. Donc,
ça, c'est d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue psychologique, peut-être des angoisses, des frustrations que vous pouvez avoir dans la vraie vie, ben, le fait de tout contrôler dans l'écriture, ça permet de se relâcher un peu dans le reste du temps.
Oui, ça permet. Alors, c'est. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'à un moment, vous comprenez que même dans le monde, et c'est l'un des thèmes du livre, que même dans le monde de la fiction, vous n'êtes pas le seul à faire des règles. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que le moment où vous sentez qu'un livre est sur la bonne voie, c'est quand vos personnages décident de faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément. Et que c'était là qu'il se passait un truc. Et donc, finalement, ce désir de contrôle, même dans la fiction, finalement, il n'est pas aussi évident que ça.
Alors, c'est aussi un roman qui nous ramène à New York.
Oui.
Pour la première fois depuis plusieurs livres. Oui. En tout cas, les deux derniers étaient très franco-français. New York, l'Amérique, New York, en tout cas, ça vous manquait ?
Alors, c'est un roman dans lequel, pour moi, les lieux n'ont pas tellement d'importance. Il y a juste cette... j'avais envie qu'il y ait cet éloignement géographique entre les deux personnages principaux. Mais si lui avait été à Hambourg et elle à Montréal, ça aurait fonctionné aussi. Pourquoi ce livre a commencé comme ça ? Alors, c'est le début, effectivement, qui se passe... À Brooklyn, alors c'est important de voir qu'en fait, il est les 50 premières pages du roman sont vraiment uniquement dans l'appartement, à côté enfermement, et la romancière voit la ville de loin, et donc j'avais envie, d'une ville bourdonnante autour d'elle, et je crois que quand j'étais en train d'écrire la première partie, j'étais à New York, c'était en octobre dernier, et effectivement, d'un seul coup, ça a été l'évidence.
New York, c'est ça vous fascine toujours autant ? Ça vous inspire toujours ? Non ?
Non, ça, non. Moins qu'avant, d'abord parce que j'y vais moins.
Ouais.
Donc j'y vais moins, donc je connais moins. Je sais que New York, c'est une ville qui, tous les 4-5 ans, change un petit peu d'aspect, il y a ce côté d'une ville qui va très très vite, elle m'est moins familière qu'avant, pour des raisons pratiques, hein, qui fait que c'est moins facile de voyager avec des enfants. Non, ça m'a fait plaisir lors des deux derniers romans précédents de revenir sur la Côte d'Azur. Là, pour celui-ci, voilà, les lieux, pour moi, étaient en arrière-plan.
Oui, c'est plus un cadre pour poser les personnages.
Ouais. Et on est vraiment à l'intérieur, des personnages. Et c'est des personnages qui s'habitent eux-mêmes, en fait. Ils sont, finalement, les lieux ne sont pas si importants pour eux parce qu'ils sont tout le temps dans leur vie intérieure. D'ailleurs, le roman est raconté à la première personne, à la fois parfois dans la tête de la romancière et parfois dans la tête du héros masculin. Donc voilà, c'est des livres qui passent à travers le filtre la subjectivité de chaque personnage.
Alors ce qui est assez, assez chouette, moi je trouve, dans ce roman, et comme dans le précédent, c'est que vous citez beaucoup d'autres écrivains, y compris alors leurs livres, mais aussi leurs histoires personnelles, ces écrivains qui sont des reclus, qui se coupent un peu de la société. Et dans le livre, vous n'hésitez pas d'ailleurs à mélanger vos personnages de romanciers avec des personnages réels. Et on sent quand même qu'il y a un plaisir comme ça, et je ne parle même pas des petites citations qui émaillent chaque chapitre. Est-ce que c'est une forme de transmission et de faire un petit peu le métier de votre maman de bibliothécaire ? Alors, ça sert l'intrigue, mais ça encourage aussi les gens à découvrir des livres, non ? Quelle est la part de virus héréditaire là-dedans ?
Complètement. Il y a cette envie de transmettre. Moi, j'étais professeur pendant 10 ans. Et là, cette histoire-là, c'est un vecteur assez efficace pour parler finalement de la méthode d'écriture, de quantité d'auteurs. Prenez par exemple l'exemple de Stephen King et de Zadie Smith ou de personnes qui, par exemple, Denis Lian répète toujours que voilà, il commence à écrire une histoire lorsqu'il a un plan, une tuyauterie. Vous avez des auteurs comme King ou Zadie Smith dans un registre complètement différent qui vous disent que non, ils partent comme ça sans avoir d'idée ou alors une très très vague idée de là où ils vont. Ils se laissent guider. Pendant longtemps, en France, il y a eu un peu ce mépris pour des gens qui disaient qu'ils avaient un plan, qu'ils passaient un temps important pour construire une intrigue. J'ai même vu un jour un auteur qui disait dans ses interviews le contraire de ce qu'il faisait en réalité. C'est assez étrange. Moi, pour moi, ça dépend vraiment de chaque livre. Il y a des livres que j'ai écrits en ayant d'abord un plan très, très, très structuré, vissé, et d'autres pour lesquels, effectivement, je me suis donné beaucoup plus de liberté. Il n'y a pas de méthode, enfin, en tout cas, pour moi, c'est chaque livre doit trouver, enfin, porte en lui sa propre gestation, en fait, la façon dont on va le mener à terme. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de recette, et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, c'est cette idée que vous avez beau avoir écrit 15 livres, le 16e sera difficile parce que chaque livre est particulier et que finalement, si vous essayez de dupliquer une méthode, ben non, ça va pas forcément marcher. Et c'est à la fois très stimulant et très angoissant. Et je crois qu'il y a 50% d'excitation et 50% de terreur. Parce que quand vous commencez un livre, vous êtes excité parce que c'est la nouveauté. Et vous êtes tétanisé justement parce que vous êtes dans l'inconnu aussi.
Mais cette envie de citer les livres des autres, oui. Et la méthode des autres, comme vous venez de le dire, mais même de citer les noms des autres, c'est assez étonnant que l'écrivain qui est le plus lu en France soit un de ceux qui cite le plus les livres des autres. Et quelque part, ben oui, c'est comme si en rentrant dans ce livre-là, on rentre un peu dans votre bibliothèque, Guillaume.
Oui, mais moi, ça a toujours été... Voilà, je suis très fier quand des lecteurs viennent me dire qu'ils ont lu certains livres, alors ça peut être Le Prince des Marais, ça peut être Belle du Seigneur, ça peut être des Polars, ça peut être que je cite lors de mes interviews, que je cite dans les romans. J'ai toujours pensé qu'un roman était aussi intéressant par les livres qui nous donnaient envie de lire. C'est un petit peu pour moi, un roman c'est comme un lien hypertexte, c'est-à-dire il doit permettre d'aller voir ailleurs aussi, de sauter vers un autre livre. Et depuis que j'ai commencé à lire, depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours eu l'impression que les livres m'amenaient vers d'autres livres et que finalement ce processus ne s'arrêtait jamais. Et c'est aussi ce que j'aime dans la fiction, c'est qu'elle n'enferme pas. Au début, quand je lisais, je ne lisais pas pour m'échapper du monde, je lisais pour... mettre ma vie entre parenthèses, mais pour pouvoir revenir dans le monde en étant plus riche de ce que j'avais pu vivre ou apprendre dans la fiction. C'est la phrase de Henry Miller, à quoi servent les livres s'ils ne vous donnent pas envie de mordre avec plus d'appétence finalement dans la vie.
Et je reviens à votre maman bibliothécaire. Oui. Je sais qu'elle, son credo, c'est de vous dire de ne pas avoir de hier. Et on retrouve ça dans les écrivains que vous citez, parce que vous citez des Américains, des Japonais, des Français, de la littérature blanche, de la littérature de genre. Pour vous, il y a pas de chapelle.
Mais non, mon seul critère, c'est le critère du plaisir, voilà, et de la curiosité que je peux éprouver. Je sais pas, j'ai 45 ans. Et je me dis, oui, voilà, je lis depuis 30 ans et je me dis, waouh, c'est quand même bien d'avoir eu cette ouverture d'esprit et d'avoir traversé comme ça des univers très, très, très différents. Et quelle chance, et ça m'a enrichi. Je déteste le snobisme, je supporte pas ça. Ça vous enferme, ça vous rend bête, ça vous rend intolérant. Alors que la culture, normalement, ça doit effectivement voilà, vous ouvrir aussi à des choses différentes. Et aujourd'hui, en tant que père, mais aussi en tant qu'enseignant, hein, j'ai toujours cette idée voilà, d'ouvrir les fenêtres quoi, et d'essayer de permettre à des gens d'aller voir des univers
qui connaissaient pas.
Oui, voilà. Voilà
et vous leur faites découvrir de manière. Voilà, c'est intégré à l'intrigue, c'est pas gratuit, mais c'est jamais.
Ça n'est jamais pour étaler une quelconque culture. Au contraire, c'est parce que ça sert un récit, ça sert une intrigue, mais ça amène de la réflexion aussi. Enfin, il y a cette idée, le roman, ce que disait Kundera, l'esprit du roman, c'est l'esprit de la complexité. Moi, pourquoi j'aime les romans? Parce que les romans permettent de dire, parfois sous une forme fluide et ludique, certaines complexités de la vie, de nos pensées. Enfin, regardez, Simenon, plus de 300 romans. Et ce que disait Assouline sur lui, savoir que Simenon, c'est un petit peu la condition humaine. Enfin, l'œuvre de Simenon, c'est ça nous renvoie à ce qu'on a de plus intime en tant qu'être humain. Et on est aujourd'hui dans une société qui, malheureusement, dans le débat public, on est dans du manichéisme, c'est blanc ou noir, alors que l'être humain est foncièrement gris. On est tous gris à l'intérieur de nous. On est traversé de désirs contraires, de pensées complexes. Et le roman, finalement, permet de faire écho à cette complexité-là qu'on porte tous en nous.
Alors, je parle de la transmission. Des livres, ça fait un peu la transition avec le fait que le livre est dédié à votre fils Nathan. Alors je crois qu'il a l'âge de, bah oui, on apprend à lire. Oui. Est-ce que Nathan a envie de découvrir les romans de son papa?
Oui, alors là c'est assez amusant parce qu'il est en âge à la fois de comprendre ce que je fais et je peux lui pitcher de façon simple, effectivement, mais...
Ou lui lire certains chapitres, mais pas tous.
Voilà, et donc, il y a cette idée, voilà, qu'un jour, quand même, essayer peut-être d'écrire une histoire à deux, c'est assez... Alors, pas forcément pour la publier, mais cette idée, en tout cas, de lui apprendre les mécanismes de la fiction, de l'écriture, de... Oui, ça me fait assez plaisir, ça, de pouvoir être dans ce rôle-là.
Il a déjà pris un de vos livres dans la bibliothèque, il a commencé
sûr,
à lire.
Non, mais bien sûr, il prend, il demande, et donc...
Bon, les musos sont plutôt interdits au moins de 12 ans, hein, non?
Oui, là, c'est un peu compliqué de lui raconter, mais en tout cas, il y a des débuts d'histoire, ouais, où, effectivement, son imaginaire
peut fonctionner, et il a le droit. Qu'est-ce qui serait le plus cruel, j'ai une question très, 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 très cruelle, Guillaume. Ouais. Qu'est-ce qui serait le plus cruel? Qu'il n'aime pas vos livres ou qu'il n'aime pas lire?
Les deux, non, mais bien sûr, qui n'aime pas lire, bien sûr. Je pense, je suis pas dans un... Je pense qu'il faut pas se dire que vos enfants vont être fiers de vous, vont aimer ce que vous faites. Enfin, en tout cas, ça prend du temps, tout ça. Ça prend même le regard que nous, on pouvait avoir sur les métiers de nos parents, de nos grands-parents. C'est qu'avec du recul, finalement, que vous arrivez finalement à mettre un peu de distance par rapport à ça, de comprendre des choses que vous compreniez pas quand vous étiez plus jeune. Non, il n'y a pas cette idée de dire plus tard mes enfants aimeront mes livres. C'est assez Non.
Par contre, le fait d'aimer à lire, je pose la question parce que durant le confinement, bon, j'ai fait plusieurs entretiens avec des auteurs qui étaient chez eux et on parlait du fait souvent que quand on ouvrait la radio, on ouvrait la télé, on voyait beaucoup de Français qui expliquaient pendant le confinement. Je tourne en rond, je suis comme un lion en cage, je ne sais pas quoi faire. Rarement, on entendait les gens nous dire « lisez, c'est l'occasion ou jamais ». Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la lecture ou parce que, paradoxalement, les Français auraient lu entre 2,5 et 3 livres en moyenne pendant le confinement? Est-ce que vous pensez que ça va durer?
Oui. Je pense que, en fait, il faut prendre le problème en se disant... qu'est-ce que ça m'apporte de lire ? Lire, ça me permet de rentrer dans une bulle où déjà, premièrement, je retrouve la maîtrise de mon temps. Ouais. Quand vous lisez, voilà, vous êtes le maître de votre temps. Vous pouvez lire lentement, vous pouvez lire vite, vous pouvez sauter des pages, vous pouvez arrêter de lire. Donc voilà, vous retrouvez un degré de liberté que vous n'avez pas ou moins... avec une autre forme de fiction, que ce soit une série, que ce soit un film. Deuxièmement, vous êtes dans un rapport avec l'histoire et avec l'auteur quand vous lisez, qui est vraiment de l'ordre de l'intime. C'est-à-dire que vous regardez un film ou une série, tout le monde voit les mêmes images, vous lisez un roman, vous faites votre propre film, votre propre et unique film, et vous êtes en lien... vraiment direct avec celui qui l'a écrit, avec l'univers des personnages. L'exemple que je donne, c'est toujours si quelqu'un vient et se met à lire sur votre épaule, enfin au-dessus de votre épaule, vous avez l'impression que d'un seul coup, voilà,
c'est... Il rentre dans votre intimité, voilà, c'est très désagréable. Cette
intimité,
hein.
Voilà, et violée. Donc voilà, donc il y a ça, il y a cette... Après, il faut pas... Il faut en fait que... Les gens se disent qu'est-ce que ça m'apporte de lire. Enfin, c'est pas le but, c'est pas de lire pour lire. Hein. Si vraiment les gens n'aiment absolument pas ça, voilà, c'est pas une obligation. On peut très bien réussir sa vie sans lire. Donc c'est pas. Moi, je peux vous dire de moi, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte de lire. Ça m'apporte le fait de pouvoir aussi me mettre dans la tête. De personnages. Umberto Eco disait celui qui lit vit sans vie, vit 500 ou 1000 vies, celui qui ne lit pas ne vit que sa propre vie. Alors bien sûr, vous vivez pas une vie aussi dense, mais vous vivez des segments de vie et surtout des segments d'intériorité d'autres personnages. Moi, le premier roman que j'ai lu quand j'avais 11 ans ou 12 ans, Léo de Hurlevent, pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que j'avais l'impression d'être dans l'esprit de personnages qui me paraissaient finalement complètement barrés et qui vivaient des émotions dont je ne savais même pas que ces émotions existaient. Et pour revenir à des auteurs comme Georges Simenon, ou ce que je vous disais à propos de l'intériorité des personnages, c'est que quand vous lisez, voilà. Si vous êtes à l'intérieur d'une psyché, vous pénétrez le cerveau de quelqu'un d'autre et vous suivez, ces divagations, réflexions. Et encore, on est là dans un spectre qui est ni blanc ni noir. On est dans ce que l'individu finalement a de plus intime et encore une fois de plus complexe. Et j'ai l'impression que parfois l'époque actuelle, avec cette exigence de transparence, de moralité, finalement nous refuse ça, alors que l'être humain est complexe par nature. Enfin, et cette complexité-là, finalement, quand vous la retrouvez dans des personnages, comme ça fait écho avec votre propre complexité à vous, vous dites, oui, je ne suis pas le seul à être comme ça.
Pour terminer, Guillaume Musso, est-ce que vous avez hâte de retrouver vos lecteurs en signature? Est-ce que vous pensez que ça va se faire dans les semaines, les mois qui viennent? Comment vous voyez les choses?
Les mois qui viennent, j'espère. Les semaines qui viennent, ça va être plutôt compliqué, mais j'espère quand même qu'à la rentrée, on va pouvoir reprendre... des rencontres, parce que c'est quand même sur ce moment où quand même les gens vous renvoient, les lecteurs vous renvoient la façon dont ils ont compris le roman. À un moment dans le livre, mon héroïne, qui est romancière, dit les lecteurs lisent le roman qu'ils ont envie de lire, peu importe le roman. Donc il y a cette subjectivité-là.
Et surtout, ces échanges-là, ben, ça ne va pas être possible pendant quelques
temps. Oui, alors ça va être possible de façon différente. Les gens vous écrivent, vous avez des réseaux, vous avez des retours, vous avez des... Mais vous n'avez pas, effectivement, la spontanéité de la rencontre. Cette espèce... Moi, je vous disais, depuis 2004-2005, les lecteurs sont bienveillants par rapport à moi, sont assez... Ces moments de rencontre, on en a, vous y avez assisté parfois, parce que vous avez mené des rencontres, et c'est toujours, il y a une bienveillance, une sympathie des gens, une curiosité, mais saine, sur la façon dont j'écris, sur... mes projets, que j'aime bien et que j'apprécie d'autant plus que généralement ces périodes arrivent après 9 ou 10 mois de gestation. Et donc d'un seul coup, vous avez comme ça cet afflux de témoignages, cet excès positif de sociabilité et qui, moi, me recharge mes batteries. Et parfois me rappelle pourquoi aussi j'écris. J'écris d'abord, effectivement, pour offrir une échappée belle aux lecteurs. Et ça, c'est bien quand ils vous montrent qu'ils vous ont suivi dans cette traversée-là.
Alors ça va peut-être venir à partir de la fin de l'été ou du début du mois de septembre. Est-ce qu'entre-temps, vous allez recommencer déjà un nouveau roman ? Et alors, est-ce que ce livre que vous aviez, que vous vous étiez pitché, construit dans votre tête ou sur le papier, je ne sais pas jusqu'où vous étiez allé, est-ce que ce livre qui s'est interrompu avant de faire celui-là, ça sera le prochain ou...
Peut-être, oui. Il était quand même très avancé et assez... il était excitant, du moins, pendant une période... Je ne vais pas écrire quelque chose ni sur le confinement ni sur le virus. Là, je suis encore dans la période, effectivement, mais qui est l'une des périodes à la fois les plus angoissantes et que je préfère, où finalement tout est encore ouvert. Vous voyez, vous vous dites, mon prochain livre sera peut-être un polar, peut-être un livre historique, peut-être une histoire d'amour. Et cet éventail des possibles est aussi vertigineux qu'intimidant.
Ok, merci beaucoup Guillaume.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Avec plaisir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !